With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Binge Audio.
Salut, c'est Thomas Rozek.
Il nous oblige de 19h à 21h30 à faire 11 courses, ou 12 ou 13. Et nous, ça nous oblige à faire des bêtises, à franchement pas rouler correctement, à prendre des risques, à brûler des feux rouges, à prendre des sens interdits et tout ça.
Avant, sur chaque commande, le minimum, c'était 4,50. Donc n'importe quelle distance que tu faisais, c'était 4,50. Maintenant, il n'y a plus du tout de minimum.
Je m'interroge, qu'est-ce qui fait que, malgré le fait que nous ne soyons pas dupes, que nous sachions très bien, même sans avoir particulièrement enquêté sur le sujet, que celles et ceux qui sont les chevilles ouvrières de la livraison généralisée, qui trimballent jusqu'à nous, en vélo, en scooter ou en camionnette, des repas, des colis en tout genre, avec une exigence de rapidité sans cesse renouvelée, que tous ceux-là sont payés au lance-pierre et subissent une précarité organisée de plus en plus violente, malgré notre compréhension de tout ça, qu'est-ce qui fait donc qu'on continue à cliquer, qu'on continue à se dire que ça n'est pas si grave? Certes, il n'y a pas sans doute qu'une seule explication à ce mal très actuel, c'est un peu la flemme, un peu la réduction de notre capacité à attendre, un peu les facilités technologiques, un peu le marketing, mais aussi et surtout peut-être un peu le fait qu'on ne se projette pas, nous les urbains aisés, clients de ces services, dans ce qu'est la réalité du boulot pour ces plateformes. Une réalité qu'un livre vient explorer aujourd'hui et dont on va causer dans notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Ce livre, il s'appelle « Ubérisation, piège à con ». Il vient de sortir chez Robert Laffont, signé par mon confrère de Libération, Gurvan Krishnanajaya. Il y détricote les fonctionnements de ces nouvelles économies, notamment en allant voir de l'intérieur comment elles fonctionnent. Et pour ça, eh bien, il s'est fait embaucher, tout simplement, ne serait-ce que pour pouvoir échanger avec celles et ceux qui, au quotidien, travaillent pour ces plateformes.
En fait, j'ai déjà essayé d'y aller comme ça, notamment sur les livreurs Amazon. Quand je commence mon enquête, je mets des petits mots sur ma boîte aux lettres pour dire « Bonjour, je suis journaliste, est-ce qu'on peut se parler ?» etc. Et en fait, ça accroche pas du tout. Pareil avec les livreurs Deliveroo ou les livreurs à vélo. Je vais souvent les voir, je leur dis « Je suis journaliste » et j'accroche pas. Et en fait, ce que je comprends après, c'est que en tant que journaliste, en fait, on a une posture qui est difficile vis-à-vis de ces personnes. C'est que pour eux, les journalistes, ça reste des éditorialistes de BFM, quoi. Donc, ils voient pas trop l'intérêt. Pour moi, la seule manière de le faire, c'était finalement de me faire embaucher, quoi. En fait, c'était un dernier recours pour moi. J'avais essayé plein de choses avant et je l'ai pas fait juste pour le fun, quoi. Je l'ai fait vraiment parce que c'était une des seules manières de montrer cette réalité-là.
Tu t'es fait embaucher où et dans quelles conditions, alors ?
Alors, je me suis fait embaucher chez Amazon en tant que livreur. Là, c'était une période d'essai au black, par un sous-traitant d'un sous-traitant d'Amazon, une période d'essai au black, parce qu'en fait, il m'a dit, y a trop de turnover, je te fais pas de contrat, si ça te plaît pas, comme ça, tu t'en vas, et j'étais pas payé, bien entendu. Hein. Ensuite, j'ai travaillé en tant que livreur Stuart, qui est une filiale de La Poste. Là, c'était un compte sous-loué, donc que je sous-louais à quelqu'un qui, lui, avait son propre compte. Et j'ai travaillé aussi pour Cowash, qui est une société qui ubérise les pressings. C'est-à-dire qu'on lave le linge d'autres personnes. On va le chercher chez eux, on le lave chez nous et on leur ramène. Quand je fais ma première enquête sur Amazon, le postulat, c'est de dire que pour se faire livrer un colis en 24 heures, c'est que forcément, derrière, il y a quelqu'un qui est sous pression. C'est obligatoire. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant, en fait. À partir de cette première enquête, je tire un fil et je me rends compte qu'effectivement, derrière tout le vernis technologique, l'algorithme, la start-up nation, enfin tous ces idéaux-là, il y a effectivement une pression qui est énorme, une cadence qui est folle et des conditions qui sont désastreuses, quoi. Des personnes qui ont des accidents, qui retournent travailler avec des plâtres parce qu'ils n'ont pas de protection sociale, qui ne peuvent pas prendre de congés, qui font plus de 12 heures par jour, par exemple pour les chauffeurs Uber, et qui dorment dans la voiture. Enfin, c'est désastreux comme conditions.
Dans la discussion avec les gens qui bossent autour de toi, parce que du coup, c'était aussi l'idée de travailler, d'aller toi-même bosser là-dedans, c'était pour pouvoir avoir accès à ces gens-là et pouvoir discuter avec eux. Quel regard ils portent ? Est-ce qu'il y a une distance critique par rapport justement à ce qu'ils sont en train de subir, ou est-ce qu'ils subissent trop pour avoir cette distance ?
C'est une bonne question. Je dirais qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont là depuis longtemps et qui, eux, ont vraiment cru à l'émancipation qui était louée par ces plateformes-là, qui disaient « vous allez être votre propre patron », etc. Ces gens-là, ils ont une distance critique parce qu'ils ont connu l'évolution. Et ils disent « moi, quand je suis arrivé, c'était pas ce qu'on m'a promis, et aujourd'hui, c'est quasiment de l'asservissement, quoi. Mmh. » Les nouveaux travailleurs des applis, ceux qui sont arrivés à partir, je dirais, de 2018-2019, qui sont quand même en majorité des jeunes de banlieue et des migrants primo-arrivants, eux, ils sont plutôt dans la survie. Donc, ils n'ont pas de distance critique. Pour eux, c'est ça ou c'est rien, quoi, finalement. Donc, c'est mieux que rien.
Ça ressemble à quoi ta première journée chez Amazon, si on commence par là ? Tu t'en rappelles comment ?
C'est très impressionnant parce que tu arrives tôt, à 6 heures du matin. Il y a plein de voitures de location qui rentrent dans un parking et ça crie dans tous les sens parce qu'il faut aller super vite. Et tu ressors de là avec, de mémoire, plus de 150 colis dans ton coffre à livrer en une journée, sachant qu'on te dit, si tu ramènes des colis avec toi, donc 20 ou 30, tu les auras sur ta prochaine tournée en plus. Donc, il ne faut pas en ramener, quoi. Et là, moi, j'étais avec un formateur. Moi, je me souviens, mon formateur était malade et il dit, je ne peux pas me faire remplacer, il faut que je travaille absolument. Et on a travaillé non-stop, donc de 7h jusqu'à 18h. On a livré le matin plutôt des particuliers. Donc, c'est là que tu découvres, en fait, que tout le monde commande Amazon. C'est assez impressionnant. Et que les gens, d'ailleurs, t'ouvrent sans trop de pudeur, quoi. Il y a des gens qui t'ouvrent en slip ou qui te parlent à peine ou qui te disent « posez-le devant la porte ». Et la deuxième partie, c'était des entreprises. Et là, c'est impressionnant de voir que tu peux livrer 50 colis à la même personne dans une entreprise, que les gens de l'accueil, ils voient que ça, que des livreurs Amazon toute la journée. Et tu ressors de cette première journée et t'es épuisé, quoi. Mmh. Vraiment, c'est... Et pourtant, j'ai fait pas mal de petits boulots, quoi. Mais alors ça, c'était vraiment une des choses les plus épuisantes que j'ai fait.
Et il y a un côté, il y a une dimension qui faisait partie d'ailleurs des dimensions qui, toi, t'intéressaient. Tu l'expliques dans le livre. Il y a un côté que tu décris très bien, c'est la sensation de n'être que un livreur, justement, de plus être un être humain à 100%, c'est-à-dire d'être invisible.
Oui, et c'est d'ailleurs une des raisons qui m'a poussé à écrire ce livre, c'était pour visibiliser ces personnes-là, parce que je trouve que c'est ce qui est le plus révoltant, en fait, quand tu portes ces habits-là, c'est que, en fait, personne ne te regarde. Et d'ailleurs, ce qui est assez flagrant, et ce que je dis au cours de mon enquête à Amazon, c'est que tu prends même pas les couloirs classiques, en fait, tu prends les coursives et tu prends les monts de charge pour aller dans les bureaux. En fait, c'est comme si tu étais un sous-citoyen, quoi. Même quand tu es livreur dans la rue, personne ne te regarde. Mais c'est affolant, en fait. Les gens sont au café, ils mangent, ils se disent « Ah, peut-être ce soir, je vais me prendre un Deliveroo parce qu'ils te voient avec le sac ou un Stuart. » Mais ils n'arrivent pas à comprendre que, en fait, c'est un humain, que je suis quelqu'un. Et d'autant plus pour moi, en fait, que j'aurais pu être ces personnes-là sur la terrasse. Donc, c'était assez révoltant, en fait, ce sentiment de déclassement, quoi. Mmh. Et donc, en fait, pour moi, c'était rendu palpable. Mais pour ces personnes-là, j'imagine encore plus, quoi. Mmh.
Il y a une autre partie du coup dans l'enquête qui est la partie où tu t'intéresses à la livraison à vélo, qui est donc devenue une espèce de norme comme ça dans les grandes villes où il y en a absolument partout et c'est devenu très 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 courant. Le point de départ est quand même assez intriguant. On parlait de dérégulation, de désorganisation et de pyramide un peu de la misère qu'il y a derrière. Il y a tout ce système de sous-traitance. Comment tu trouves, est-ce que tu peux nous raconter, comment toi tu trouves ce boulot, comment tu trouves ce compte qui va te permettre de travailler ?
Oh bah c'est très très simple, hein. Sur les groupes sur Facebook, il y a des tas d'annonces de personnes qui proposent des comptes qui leur appartiennent. Donc en gros, c'est des livreurs qui ont plusieurs comptes, un sur Deliveroo, un sur Stuart, un sur Uber Eats, par exemple. Et ils vont louer un des comptes pour qu'ils tournent tout seuls et qu'ils prennent de l'argent. Je contacte 400 personnes et sur les 4-5, je crois qu'il y en a deux qui me proposent un compte. Une qui prend plus de 120 euros de commission. Donc, c'est énorme. Sur une journée complète, hein, on peut faire entre 50 et 80 euros. Quoi. Mmh. Et l'autre qui me propose 80 euros de commission. Donc, je fais un deal avec cette personne-là. Et donc, je travaille sous l'identité d'une personne qui n'est pas moi, en fait. Hein. Mmh. Et personne ne vérifie à aucun moment que c'est le cas. D'ailleurs, je n'ai pas de sac. C'est ça qui est le plus marrant. C'est qu'il me donne le compte et il me dit « tu te débrouilles pour te trouver un sac ». C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de livreurs qui ont des sacs isothermes Picard. C'est qu'en fait, c'est un filon. Tu vas chez Picard, tu as un sac isotherme et voilà. Et bon, moi, j'ai réussi à récupérer un sac via Le Bon Coin et via une connaissance. Et du coup, j'ai pu livrer comme ça toute une journée, tranquille, quoi.
À quoi ça ressemble la journée d'un livreur à vélo, du coup, alors ?
En fait, on ne pense pas quand on les voit comme ça en mouvement, Parce que nous, ce qu'on voit de notre point de vue des livreurs à vélo, c'est le mouvement, en fait. Hein. Mais c'est une journée qui est assez immobile. Parce qu'il faut attendre que ça sonne, que tu aies des livraisons, que l'algorithme te choisisse, selon un raisonnement qui, parfois, n'est pas clair. Donc, tu attends dans des points stratégiques, souvent en face des fast-food, parce que ça débite pas mal. Et tu attends que ça sonne comme ça pendant parfois une demi-heure, une heure. Et pendant ces temps-là, tu n'es pas payé. Et donc, parfois, ta première livraison, c'est 5 euros. Et donc, tu vas faire une livraison de 5 euros, puis tu attends de nouveau. Parfois, tu livres à 300 mètres du restaurant, et tu vas monter chez la personne, et tu te demandes quel est l'intérêt, quoi. Pourquoi tu ne t'es pas déplacé ? Bon, voilà. Voilà, puis c'est quand même galérer pas mal avec les codes. Les gens donnent les mauvais codes, répondent pas au téléphone. Parfois, on t'envoie dans des courses, par exemple, je sais pas, en banlieue, alors que toi, t'es à Paris à vélo. Enfin, moi, je l'ai fait à vélo en tout cas. Et tu te dis, si j'y vais, même si je gagne 10 euros, est-ce que le retour vaudra le coup ? Je vais mettre 3/4 aller, 3/4 retour. Enfin, c'est tout un tas de questions comme ça. Par ailleurs, si tu refuses cette course-là qui est loin, t'es pas sûr d'en avoir une derrière, donc tu vas de nouveau devoir attendre une heure. Voilà, donc c'est beaucoup, beaucoup d'attente. Mmh. Et pendant ces temps-là d'attente, les livreurs quand même discutent beaucoup. Mmh.
Qu'est-ce qu'ils se disent, du coup ?
Ça parle de tout et de rien, comme des collègues, et je pense que c'est quelque part quelque chose qui est assez rassurant, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une forme de collectif qui se forme à ce moment-là. Après, en général, les livreurs sont quand même répartis par... Enfin, ils se forment par entre guillemets, communauté. Les jeunes de banlieue restent entre eux. Il y a beaucoup de personnes d'Afrique subsaharienne aussi, aujourd'hui, qui aussi restent entre eux. Et ils parlent peu du boulot, finalement. Et beaucoup de foot, comme on ferait avec des collègues. Quoi.
Dans l'organisation justement des personnes qui travaillent pour ces plateformes, on voit à quel point c'est presque réfléchi de la part des plateformes, les personnes qu'ils ciblent, les personnes qu'ils visent. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand Uber est arrivé, quand c'était du côté des VTC, ils sont très rapidement allés vers les quartiers populaires, vers les jeunes de banlieue qui étaient potentiellement des conducteurs intéressants. Et là, maintenant, on voit que c'est une couche encore plus défavorisée de la population, et notamment beaucoup de personnes en situation irrégulière, en situation de migration, qui se retrouvent à travailler pour ces plateformes, comme s'il y avait une forme d'organisation de ça.
Alors, pour les jeunes de banlieue, c'était très clair, en effet, parce que, notamment, en fait, Uber existe un peu sur ce postulat-là, en disant on va donner une émancipation. Aux États-Unis, notamment, ça a beaucoup fonctionné comme ça. Quand ils sont arrivés en France, ils ont reproduit ça. Et ils sont allés, par exemple, leur siège, il s'est déplacé du centre de Paris à Aubervilliers. C'est pas un hasard, hein, Seine-Saint-Denis, voilà, un bassin d'emploi énorme. Et puis après, ils ont fait des tournées de bus en bas des tours pour recruter des chauffeurs. Et voilà. Ça, c'était à peu près entre 2015 et 2017, quoi. Et ensuite, effectivement, je pense qu'ils sont pris dans un piège eux-mêmes, qui est qu'ils ne sont pas rentables. Mmh. Et donc, de ce fait, les rémunérations ne font que baisser. Donc, les chauffeurs qui étaient, ou les livreurs qui étaient d'abord intéressés, ont fini par disparaître. Et effectivement, aujourd'hui, ils ne peuvent pas ignorer en fait, qu'ils embauchent des personnes, qui font travailler des personnes en situation irrégulière. Maintenant, je pense qu'il y a c'est ce que j'écris dans le livre, en tout cas, ça m'interroge, je pense qu'il y a quand même une dépendance des plateformes vis-à-vis de ces personnes-là qui, protestent peu et sont quand même une main-d'œuvre qui est essentielle. Quand on voit aujourd'hui, dans le confinement, le nombre de livreurs qu'il y a dehors, ça a quand même été un bouleversement de société important. Tout le monde se fait livrer parce qu'on ne peut plus aller au resto. Eh ben, il faut de la main-d'œuvre. Et en fait, moi, je n'ai pas tenu 2 semaines, quoi, en tant que livreur. Donc, il faut qu'il y ait quand même une notion de survie et de précarité très importante pour dire je vais quand même me contenter de ce boulot-là où je peux gagner peut-être 0 euro en une heure. Et voilà.
Comment ces entreprises-là gèrent ces aspects négatifs qui sont maintenant très clairement sur la table, notamment le fait qu'il y ait tout un tas de dérives qui se soient mis en place et de dérégulations encore plus violentes que celles qu'eux avaient imaginées. Comment eux justifient ça ? Comment ils se défendent de ça ?
En fait, ce qui est pratique au sein de ces plateformes pour eux, c'est que la couche de marketing et de communication est tellement bien conçue qu'ils n'ont même pas besoin de s'en défendre. En fait, aujourd'hui, quand on voit que Uber Eats, par exemple, pour la cité, et sponsorise la Ligue 1. En fait, c'est pas un hasard, c'est qu'on a associé Uber Eats à du plaisir, à tel point que, du coup, c'est ça aussi qui va invisibiliser les travailleurs. Et donc, en fait, ils n'ont même pas besoin de s'en défendre. C'est tellement acquis dans le cerveau des gens. Mais même moi, hein, je fais des enquêtes sur le sujet, etc. J'ai des moments de faiblesse, j'ai des moments où je me pose la question, tiens, j'ai pas envie de cuisiner, est-ce que je commanderai pas ? Et c'est quand même fou à quel point ils ont réussi à nous retourner le cerveau, quoi, finalement.
Et dans la communication, justement, on voit récemment, alors je sais pas si c'est, si c'est une volonté de réhumaniser leur personnel ou pas, mais que les livreurs sont, tu parlais d'Uber Eats, typiquement Uber Eats insiste un peu sur, pour personnaliser un peu les livreurs, ils prennent la parole, c'est eux qui parlent dans des petites vidéos qu'on voit passer et tout ça, il y a un peu ce jeu-là, ils essayent de remettre de l'humain. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils sentent qu'il y a un truc qui est en train de tourner un peu vinaigre pour eux ?
Oui, le vent tourne clairement là, ça fait depuis, je pense depuis 2019 que ça devient compliqué. Ça s'explique par plusieurs choses. Une, comme on le disait, c'est pas rentable. Deux, il commence à y avoir des syndicats qui se forment, des protestations, des grèves, et pas qu'en France, hein, partout en Espagne, c'est très, très important. En Angleterre, à Londres, ils ont obtenu plein de choses. Et il y a des recours en justice qui se font aujourd'hui et qui aboutissent. Ils ont été initiés en 2017 et puis ils aboutissent aujourd'hui par des... Ils obtiennent des choses en cours de cassation, qui est quand même la plus haute juridiction française. Donc effectivement, le vent tourne. Et puis, il y a eu un changement d'air quand même au sein de la première plateforme Uber qui a quand même initié le mouvement où ils étaient dans une position très, très agressive où ils disaient, ils arrivent sur un marché, ils dictent les lois aux travailleurs et au gouvernement. Et puis, ils se rendent compte que finalement, c'était peut-être pas une bonne manière de faire. Et aujourd'hui, ils ouvrent un peu plus. Par exemple, y compris en Californie où ils sont nés, il y a eu un vent assez important de révolte avec une loi qui a failli passer pour salarier les chauffeurs. Et ils se sont dit, bon, si même dans notre bastion, on est attaqué, on va peut-être ouvrir un peu. Mais en fait, c'est un peu aussi une notion de survie, parce qu'aujourd'hui, s'ils ne font pas ça, ça va être très, très compliqué pour eux de survivre, parce qu'en étant agressifs, ils ne donnent pas d'alternative finalement. C'est soit leur modèle, soit le salariat classique. Et entre les deux, du coup, ils ne peuvent pas concevoir d'alternative, quoi.
T'as gardé des contacts au sein des livreurs et des gens que t'as fréquentés lors de tes passages de l'autre côté de la barrière. Tu leur as fait lire ton étude, ton essai ?
Oui, j'ai fait lire à certains, en tout cas des passages.
Comment ils perçoivent eux, ce travail-là, cette réflexion-là sur leur quotidien ?
Il y a quand même une forme d'amertume, je dirais, chez ces personnes. C'est-à-dire que quand bien même on fait un travail pour leur donner la parole, etc., ils se disent « c'est tellement gros que ce ne sera pas assez pour faire bouger les choses, en fait ». Ils sont même des chauffeurs... Ouais, ils sont résignés, tout à fait. Des chauffeurs que j'ai rencontrés il y a 2 ans, par exemple, et qui avaient déjà une affichette collée sur leur voiture pour vendre leur voiture. Quand je les rappelle aujourd'hui, dire comment ça va, prendre des nouvelles, quoi. Ils disent ben, toujours la même chose. Je suis toujours à essayer de vendre ma voiture. En même temps, je dois quand même travailler chez Uber pour payer mes dettes. Donc, pour eux, ça c'est... Oui, ils sont vraiment résignés, c'est ça. Ils sont résignés.
Et le livre de notre invité, je le redis, il s'appelle « Ubérisation, piège à con ». Il est dispo chez Robert Laffont. Merci à Gurvan Christian Adjaya pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre rapide podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.